Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat.
Tiens, on a découpé une femme.
I am a feminist.
Je vous obsède avec une constance.
Je ne suis pas conduite.
Qui appelle quand même l'admiration.
D'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist.
Des femmes artistes, activistes, politiques.
On vit un temps fort du féminisme.
People are suffering. People are dying. How dare you?
On l'a demandé gentiment assez longtemps, maintenant il s'agit de l'exiger.
J'irai où je veux, je tracerai ma route.
La poudre, pour moi maintenant, ça devient une archive extraordinaire du féminisme de cette dernière décennie. Quoi.
Bienvenue dans la poudre.
Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Clara Isée.
Une fois que quelque chose a été brisé, comment on peut récupérer les débris, trouver d'autres choses et recomposer un univers avec.
Bienvenue dans La Poudre, saison, 2016, 2017, 2018, 2023, oh my god, bienvenue dans La Poudre, saison 8. 8, c'est l'infini, non? C'est ça? Je suis très heureuse de vous retrouver, vous les fidèles, vous les nouvelles et les nouveaux. Après une saison 7 où nous avons parlé d'humour, de rire, un été d'archives cinématographiques, j'ai envie cette saison de parler de musique dans tous ses états, lyrique, pop, électronique, scène, clip, label, et puis bien sûr art, création, solitude et exaltation. Cette saison aussi, on va se retrouver sur scène pour La Poudre Live, un nouveau format en public qui m'apporte beaucoup de joie et qui vous plaît aussi. Le prochain rendez-vous sera le 5 octobre avec Kalika et Yel à l'Alhambra à Paris. Et je vous promets que j'essaye de monter des choses en dehors de la capitale très bientôt. Si vous ne voulez louper aucun épisode, abonnez-vous, c'est une super façon de soutenir le podcast. Mettez-lui des étoiles aussi pour qu'il remonte dans les classements des plateformes qui m'auraient un peu oublié. Bon, je crois que j'ai fait le tour des instructions de la rentrée. Je suis très heureuse de cette nouvelle saison à vos côtés. Il va se passer plein de choses pour moi, des livres, des projets, des changements. Alors restez en ligne et accrochez vos ceintures pour le premier épisode de la saison en compagnie de l'envoûtante Clara Isée.
Qu'il fut pour ton rivage, ensemble, souviens-t'en, nous vécûmes un amour enivrant. Et j'ai gardé brûlant en moi ton océan.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Clara Isée, j'ai écouté votre nouvel album, Océano Nox, cet été, dans un bus qui traversait la campagne nantaise. Et alors que les premières notes du premier titre, Pyromane, retentissaient dans mes écouteurs, par la fenêtre du car, j'ai vu une maison carbonisée. La charpente et les murs noircis de la fermette à colombage témoignaient d'un incendie tout récent. J'ai presque senti l'odeur du brûlé. Et votre voix disait « Quand retentit minuit, brûlons nos lits et entrons dans la danse ». Et cette maison, par la fenêtre du bus, était comme une illustration de la chanson. Et elle rappelait aussi l'incendie qui ouvre votre roman sorti il y a un peu plus d'un an chez Grasset, « Mise à feu ». Et donc voilà, c'était complètement magique. Alors je vous préviens, chers auditeurices, on va faire une interview un peu perchée, connectée à l'invisible. On va parler de synchronicité, de signes, d'esprit. On va faire une interview de Scorpione, notre signe astrologique à toutes les deux. Et oui, on parle d'astrologie dans ce podcast, vraiment désolée, pas désolée aussi. Si vous craignez la magie, revenez dans deux semaines quand j'aurai à mon micro, je sais pas moi, une bélier. Clara Isée, quelle place à la magie dans votre vie?
Une place importante, mais je dirais la magie comme l'envisagent les auteurs sud-américains, quoi. Garcia Marquez, le réalisme magique, où en fait, eux, ils ont un rapport à la magie que je trouve magnifique parce que c'est pas tellement un rapport à une magie ésotérique, c'est un rapport très concret à la magie. C'est-à-dire que chez eux, en fait, c'est l'imaginaire qui projette des choses, et en fait, à force d'imaginer les choses, elles arrivent, quoi. Et donc, du coup, la magie, c'est plutôt l'espèce de foi qu'on pourrait avoir dans le pouvoir de transformation de l'imagination. Et ça, j'y crois très, très, très fort. Je pense qu'on appelle les choses.
Magie qui est dans le réel et qui n'est pas dans un espèce d'au-delà imaginaire, comme on l'a rejeté beaucoup en Occident.
Exactement, complètement, qui est dans un rapport très concret, en fait. Très concret.
Ça me parle beaucoup aussi. Alors cet album, il est fou. J'ai reçu un lien d'écoute il y a quelques semaines. Je connais déjà par cœur. C'est votre premier album complet après un EP et un titre. Le monde s'est dédoublé, que nous sommes nombreuses et nombreux à avoir déjà usé jusqu'à la corde. J'ai entendu la chanteuse Pomme dire qu'elle l'avait écouté en boucle dans certains moments difficiles. C'est une chanson qui parle de dissociation, qui parle de traumatisme, qui parle de sortir de son corps momentanément pour survivre mieux. Et là, dans Océano Nox, j'étais surprise de retrouver Le monde s'est dédoublé dans une version différente, plus instrumentale. Pourquoi l'avoir dédoublé?
D'abord pour rendre effectif la chanson. Et puis non, parce que pour moi, comme sur cet album, j'avais vraiment envie de faire un premier album qui soit un premier album avec que des nouveaux titres. J'avais vraiment envie de... comme un vrai premier chapitre. Et en même temps, cet EP, Le monde s'est dédoublé, qui est à la fois le titre de l'EP et le titre de la chanson, c'est une chanson qui est très importante pour moi, qui est une chanson qui m'a aussi permise d'arriver, de faire cette trajectoire jusqu'à cet album, etc. Donc pour moi, c'était important qu'elle soit présente dans l'album. Et une des choses que je trouvais jolie, c'était de la réarranger complètement, parce que je trouvais que du coup ça tissait une trajectoire, en fait, pour les personnes en tout cas qui connaissent l'EP ou qui l'avaient écouté. Je trouve que c'est le fait de l'avoir réarrangé, c'est comme si ça racontait une histoire entre les auditeurs et moi, entre d'où je viens et où je vais, quoi. Qu'il y avait un fil.
Ce truc très particulier que les gens ressentent en l'écoutant, vous êtes au courant, vous avez reçu, j'imagine, des DM, des messages, enfin, vous avez senti cette particularité.
Ouais, sur ce titre-là, j'ai reçu des messages magnifiques et même très émouvants, parce que je pense que quand on compose ou quand on écrit, souvent on le fait dans une espèce de demi-inconscience, quoi. Sinon, on ne le composerait pas. Si on savait pourquoi on composait les choses, on ne le ferait pas. Et du coup, c'est souvent émouvant, parce que les personnes qui partagent leurs ressentis sur des chansons, très souvent, ils nous donnent des clés de compréhension, nous. Et sur Le monde s'est dédoublé, c'était assez frappant, quoi. J'ai eu des messages qui m'ont vraiment bouleversée, et où j'ai eu l'impression de comprendre mieux ce que c'était que cette chanson grâce à eux, quoi.
C'est magnifique. Vous venez de commencer la promo de cet album. Oui. Est-ce que pour l'instant ça va? Est-ce que vous vous sentez comprise? Est-ce que l'accueil vous effraie ou au contraire vous enthousiasme?
Non, je suis hyper contente. En fait, j'ai tellement bossé sur cet album. Ça fait quasiment 5 ans que je suis dessus. Et du coup, c'est l'aboutissement d'un très long processus. Et c'est vrai que c'est hyper émouvant de savoir qu'il va être partagé bientôt. Et du coup, forcément, les promos, c'est aussi les premiers retours, c'est les premières personnes qui les ont écoutées avant que ça sorte. Donc moi, ça m'émeut vachement. Et d'autant plus que je pense que, comme j'ai beaucoup bossé aussi sur les clips, etc., jusque même la fin août, je travaillais sur le montage, l'étalonnage du dernier clip. Du coup, j'étais vraiment le nez dans le guidon. Et du coup, depuis la fin de l'étalon, c'est un peu la première fois que je réalise que c'est vraiment qui va sortir là. Et du coup, ça me fait peur, mais ça me fait peur. Ça me fait peur parce que forcément, il y a un truc c'est un premier album, quoi. Donc, il y a un truc qui est tellement intime que d'un coup, je réalise que ça va être partagé. Donc, je suis excitée, j'ai hâte, j'ai hyper hâte d'être sur scène et de le partager sur scène. Et en même temps, évidemment, j'ai un peu peur.
Plus que pour le roman?
Ouais, plus. Je dirais différemment. Parce que je crois que la musique, c'est vraiment ma vie, quoi. Et que l'écriture, pour moi, elle est aussi absolument nécessaire dans ma vie. Mais pour moi, elle vient de la musique. Enfin, et je pense que j'ai un rapport à la musique, mais j'imagine comme pas mal de musiciens, mais... Je pense que je crois en la musique comme d'autres croient en Dieu, quoi. J'ai un rapport qui est hyper fort à ça. Et où du coup, j'ai l'impression que... C'est bizarre à te dire, mais j'ai l'impression que j'ai une dette envers la musique. que c'est comme si la musique m'avait tellement aidée dans ma vie, qu'elle m'avait tellement aidée à vivre, que j'ai une dette qui sera jamais comblée vis-à-vis d'elle. Et que du coup, d'essayer comme je peux d'apporter une goutte d'eau dans cet océan qu'est la musique, et d'essayer comme je peux de la partager, de faire en sorte que peut-être qu'elle aide d'autres personnes comme elle m'a aidé moi. C'est un truc qui est vraiment hyper important. Et donc, du coup, ce premier album, je sens bien qu'il y a une charge émotive qui est vraiment particulière.
D'ailleurs, dans le concert, dans le live, il y a cette dimension de rituel, en fait, qui n'existe pas dans la littérature. Enfin, on peut faire des lectures en public, mais
oui.
Une écrivaine, c'est jamais... c'est rarement une grande performeuse, alors que là, effectivement, il va y avoir une communion avec...
Complètement. Complètement. Puis c'est vrai qu'il y a un truc dans la sortie d'un album où... en tout cas, moi, dans mon expérience, dans la sortie du roman, dans la sortie de Mise à feu, quelque part, quand ça sort, c'est fini, quoi. Dans le sens... ça appartient à d'autres et c'est magnifique comme ça, et on laisse vraiment, ça nous, on est déjà sur l'autre écriture qui arrive, alors que dans un album, moi, si je fais de la musique, c'est pour le live, quoi. Donc du coup, ce qui est génial, c'est que quand il y a un album qui sort, tu sais que c'est le début de la vraie histoire, qui est la musique partagée en vrai, quoi. Et donc ça, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux, donc j'ai trop hâte.
Moi aussi, j'ai hâte de vous voir sur scène au Café de la Danse cet hiver. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Clara Isée, vous avez grandi à Paris, dans le 14e et dans le 18e arrondissement. C'était comment, cette enfance parisienne ?
C'était j'ai un rapport comme pas mal de gens, j'ai un rapport à mon enfance qui est, il y a des bribes de moments très très beaux, il y a des espèces de d'éclats comme ça, des souvenirs très forts qui sont beaucoup liés à et à des choses intimes et à des souvenirs de musique, et voilà. Puis il y a aussi des choses dont je préfère ne pas me souvenir et où je suis ravie de plus y être.
Et le fait de grandir à Paris
Moi, c'est une ville que j'ai adorée, quoi. Je pense que... Je ne sais pas si j'aurais aimé cette ville si je n'y avais pas grandi. Mais du coup, j'ai vraiment un rapport à cette ville qui est un truc où... j'ai besoin souvent d'en partir, comme beaucoup. Mais il y a toujours quelque chose qui me rappelle à cette ville. Et l'enfance, l'enfance à Paris, c'était quand même une enfance... notamment où mes parents m'amenaient voir des concerts, ou je sais pas, des souvenirs de gamin, quoi, mais d'école, de trucs. Non, j'ai bien aimé l'enfance à Paris.
Vos deux parents, dans votre enfance, étaient dans le monde de l'art et de la culture. Votre père, peintre, votre mère, écrivaine, philosophe. Est-ce que justement, cette dimension culturelle, artistique, vous l'avez sentie tout de suite aussi, dès l'enfance, que c'était quelque chose d'important, que ça peut arriver plus tard dans la vie de beaucoup de personnes ?
Complètement. Moi, hyper fort, mais je dirais que je n'ai pas du tout conscientisé ça. Je pense que mon premier rapport, par exemple, à la création, c'est un rapport très concret aussi, qui est les heures que je passais à voir mon père peindre. Mes parents ont divorcé quand j'étais assez petite, et très rapidement je me suis mise à aller dans l'atelier de mon père, et en fait à passer des heures sur le canapé à juste le regarder peindre, quoi, et en silence ou en chantonnant. Et en fait, du coup, c'est des moments qui faisaient partie intégrante de mon quotidien, et où je me suis rendu compte finalement super tardivement de à quel point ça m'avait marqué, et notamment le fait que mon père, c'est un obsessionnel un peu fou de travail, donc il travaille 10 heures par jour, il se réveille la nuit, il retourne dans son atelier, c'est sa vie, quoi, il respire pour ça. Et je pense que de l'avoir vu travailler avec autant d'exigence, je pense, d'acharnement, et puis de le voir comme ça peindre, il part toujours, toujours actuel d'ailleurs, mais il part toujours de fond très sombre, et il peint des grandes peintures à l'huile, il part toujours de fond très sombre, il fait venir la lumière depuis un fond très sombre. Et je pense que du coup, j'ai mis vachement de temps à comprendre à quel point ça m'avait marqué, à quel point cette espèce de recherche de la densité de la lumière, et à quel point je trouvais ça fou que... Je me sens que j'avais posé la question de lui dire mais pourquoi est-ce que tu fais toujours venir la lumière depuis l'obscurité, quoi. Et puis il m'avait dit, je ne saurais pas vraiment dire pourquoi, mais par contre, il y a une densité de la lumière que tu peux trouver que quand elle traverse l'ombre, quoi. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui m'a ultra marquée et qui est très, très présent dans ma musique. Et...
Ah ouais, complètement, c'est vrai. Enfin, y a une dimension évidemment aussi philosophique quand on entend cette phrase. Ouais. Elle peut être purement esthétique, mais aussi parler...
Complètement, c'est clair.
Des grands élans créatifs qui succèdent ouais. à la douleur. Et,
totalement. Et je pense qu'il y a un truc qui était émouvant pour moi dans ce geste-là, qui était aussi un truc que je ressentais. Bon, mon père n'a jamais vraiment posé les mots dessus, là, mais je dirais que je sentais chez lui une espèce de sentiment de responsabilité vis-à-vis de la lumière. Et que je sentais que quand il bataillait sur un tableau et que le tableau ne voulait pas sortir et qu'il continuait et qu'il bataillait, là, et qu'en fait, je sentais que pour lui, c'était impossible, que ça lui arrivait évidemment, mais que c'était rare et que c'était impossible pour lui de se dire que la lumière qui avait un jour existé sur ce tableau-là... c'était impossible qu'elle s'éteigne, quoi. Donc, il fallait qu'il y arrive, il fallait qu'il le sorte, parce qu'il avait une responsabilité vis-à-vis de cette lumière-là. Et je pense qu'il n'en parlerait jamais comme ça, mais moi, c'était mon ressenti. Et je pense que ça m'a hyper marqué, quoi. Ce rapport-là de, je dirais, de courage aussi vis-à-vis d'une certaine radicalité dans ce qu'on fait et de courage de pas abandonner l'élan vital, quoi. Ce qui ne veut pas dire de ne pas traverser les zones d'ombre, mais d'avoir ce courage-là, ce courage de la joie, je dirais, quoi. Le fait qu'il y a une intentionnalité dans le fait d'aller chercher la lumière, que c'est demandant, et que, au sens littéral comme au sens figuré, et que ouais, ça nous demande, et que c'est peut-être ça qui est beau dans ce chemin-là, quoi.
Je me dis aussi que c'est rare, en fait. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont l'occasion dans leur vie d'assister à la création. Les objets d'art, qu'il s'agisse d'un tableau ou d'une chanson, ils arrivent à 99% des gens déjà tout fait et on a rarement accès aux heures qu'il y a derrière. Donc j'imagine que ça façonne aussi ouais. une âme de créatrice, une âme d'artiste d'assister ouais. à ces heures-là.
Complètement. Je pense que ça m'a... Et encore une fois, c'est drôle parce que je pense que j'ai conscientisé à quel point ça m'avait marqué très tard, quoi. Mais je pense que là où ça m'a marqué, c'est que en fait, d'assister à ce processus-là, moi, en fait, du coup, moi, j'avais accès surtout au côté très, très artisanal, quoi, de la création. Et que, en fait, je pense que c'est un truc qui m'est resté. Que moi, ce qui m'intéresse, ce que j'adore, c'est le fait d'essayer des choses avec des musiciens, c'est le fait de rester des heures dans un studio, de tester, de déconstruire, de reconstruire. Il y a une dimension qui est très physique, quoi, concrète, artisanale, qui finalement m'intéresse, je crois, beaucoup plus que l'image qu'on pourrait avoir un peu désincarnée de l'art comme étant un peu comme de la magie qui serait un peu ésotérique, quoi. Je trouve que moi, ce qui m'intéresse dans la musique, c'est à quel point elle est physique, quoi, à quel point elle a trait au corps, à quel point elle a trait au collectif, à quel point elle a trait au fait d'être un peu fou d'acharnement et que ça crée des trajectoires qui sont belles, quoi. Il y a un poème de Cavafy qui m'a bouleversée quand j'ai lu ado. Je me souviens plus du texte exact, mais c'est un poème qui s'appelle Ithaque, je sais pas si tu vois. C'est un texte où il parle d'Ithaque et il dit voilà, tu feras le chemin vers Ithaque, et je dis pas du tout les bons mots, mais en gros tu feras les chemins vers Ithaque et tu rencontreras les cyclopes et tu rencontreras les lestrigons et tu iras sur des îles extraordinaires et tu vas respirer des parfums incroyables et tu auras toujours Ithaque dans ta tête et ton but est Ithaque, etc. Puis en fait il dit toute ta vie tu voyages et t'arrives finalement à Ithaque à la fin de ta vie. En fait, peut-être que Ithaque c'est une terre désolée où il y a rien, mais en fait Ithaque c'est le voyage. Et je suis tellement d'accord avec ça. Je trouve que dans n'importe quel processus de création, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, c'est un processus qui te transforme.
C'est la route vers Ithaque.
Oui, complètement.
Et ce que je trouve aussi intéressant, je trouve que ça montre aussi quelque chose de particulier dans ton éducation, c'est que c'est la musique qu'on t'a donnée, en cadeau quand tu étais petite. On t'a mis, je crois, au violon d'abord, et puis au chant. Et c'est étonnant parce que voilà, tu as des parents qui sont dans la littérature, la peinture, et toi, tu avais ton art à toi qui était uniquement ton langage. C'est un ouais, bon cadeau, ça, je trouve.
C'est clair. En fait, c'est un cadeau qui me vient de ma grand-mère, pour être précise.
J'adore les hommages aux grand-mères dans la poudre. C'est le lieu idéal pour ça.
Je crois que dans ce qu'on me raconte, je passais vraiment ma vie, comme plein d'enfants, à chanter tout le temps. et à faire chier les gens en leur disant c'est l'heure du spectacle, voilà, et à passer ma vie à chanter. Et en fait, quand mes parents ont divorcé, donc j'avais 6-7 ans, et ma grand-mère, qui était ma grand-mère maternelle, elle me voyait chanter tout le temps et elle s'est dit il faut faire un truc, parce que c'était un peu, comme souvent les divorces, c'était un peu violent. Et du coup, elle s'est dit il faut faire un truc avec cette petite-là. Et du coup, c'était trop mignon parce que en fait, elle a rencontré une femme qui a été, moi, c'est une des femmes les plus importantes de ma vie, qui a été ma professeure de chant pendant des années. Et en fait, c'est ma grand-mère qui l'a rencontrée. Et ma grand-mère, elle devait avoir 70 ans, quoi, un truc comme ça. Elle a rencontré cette femme qui avait le même âge et qui était en fait une prof de chant classique assez connue, qui faisait surtout travailler des chanteurs déjà hyper rodés et tout et tout. Sauf qu'elle avait une petite fille de mon âge et à qui elle voulait donner des cours de chant. Et du coup, quand ma grand-mère lui a parlé, elle lui a dit « Bon, bah, viens avec Clara un jour, puis on va essayer de faire un cours de chant avec ma petite fille, puis on verra bien, quoi. » Et en fait, c'était une femme hyper exigeante, très dure, très... un peu un dragon, comme ça, comme on peut les imaginer, les profs de chant.
Un peu à l'ancienne.
Un peu à l'ancienne, carrément à l'ancienne. Et génial. C'est-à-dire, en fait, ça m'a tellement soulagée parce qu'elle avait une discipline qui était énorme et une exigence qui était énorme, mais qui était tellement placée à un endroit de passion, quoi, qu'en fait, elle m'a complètement transmis ça et qu'en fait, très rapidement, c'est devenu une figure importante pour moi. Je lui ai demandé si je pouvais arriver le matin, écouter tous les cours, je partais le soir, tard. Et en fait, je pense que même ça a été mon premier rapport au féminisme, je dirais, qui est un rapport, en fait, pareil, qui est très physique, qui n'est pas intellectuel, où en fait, j'étais là dans cette micro-salle avec un piano et cette femme-là. Et puis, il y avait des meufs qui débarquaient qui, toute l'heure, elle était consacrée à ce que leur voix prenne toute la place et le plus de place possible. Et en fait, et pas que ça, évidemment, avec énormément de travail sur la technique, mais d'un coup, pour l'enfant que j'étais, c'était un truc de dingue. Je me disais, mais enfin, ça m'a frappée d'entendre ces corps de femmes... avec autant de puissance, de coffre, d'espace pour et je pense que ça a été mon premier rapport où je me disais ah ouais, mais en fait il y a déjà la voix, c'est dingue, quoi, c'est-à-dire que tu peux aller tellement explorer des zones de monstres en fait en soi, mais qui existent et qui sont tellement intéressantes à aller explorer, et ça m'a fasciné, quoi.
Ah, c'est magnifique, c'est vrai qu'on parle aussi souvent dans le féminisme d'avoir la voix qui porte, d'être silencieux, d'être écouté. Mmh. Et c'est vrai que dans le chant lyrique en particulier, c'est complètement fou symboliquement.
Ouais, symboliquement, c'est dingue. Ouais, c'est clair.
Qui chante suffisamment fort pour qu'on l'entende au centième rang.
Ouais,
quoi.
Pour qu'elle traverse l'orchestre, on n'arrête pas de dire ça, tu vois, c'est genre passer au-dessus de l'orchestre.
Ouais.
Et il y a un truc où symboliquement, c'est super fort.
C'est magnifique.
Ouais.
J'aime bien que tu parles de ta grand-mère ou de ta prof de chant, parce qu'il y a aussi une autre femme que tu cites souvent en interview, que tu appelles ta deuxième maman, qui était un peu ta nounou colombienne, qui te parlait en espagnol.
Ouais.
C'est une langue qu'on retrouve dans ton travail, dans plusieurs de tes chansons. Et je trouve que c'est chouette que tu parles de ces femmes qui sont souvent dans l'ombre. En fait, on est nombreux, nombreuses à avoir été dans l'enfance accompagnées par des femmes souvent issues de l'immigration. Et pourquoi tu parles d'elle, pourquoi elle est si importante dans
parce
ton
qu'elle
parcours.
M'a vraiment ultra marquée. Enfin, c'est vraiment ma deuxième mère, quoi, dans le sens où elle m'a élevée. Je passais mon temps avec elle. Ma mère, elle voyageait beaucoup, donc en fait, c'était vraiment c'était ma première oreille. Elle me racontait toutes ses histoires. Donc j'ai un rapport à elle qui est un rapport en fait maternel, quoi, parce que finalement la maternité, elle est construite, et c'est aussi les personnes qui t'élèvent, quoi. Et elle m'a élevée, elle m'a transmis énormément. Elle avait justement, je pense que elle était hyper croyante, par exemple. Elle avait un rapport, elle était catholique, hyper pratiquante et tout. Et du coup, c'est drôle parce que je me rends compte que moi, du coup, je priais avec elle. Donc enfant, j'étais hyper croyante, mais c'était que des prières en espagnol. Et avec un rapport hyper superstitieux. Et en fait, je me rends compte que c'est un rapport que j'ai gardé dans la musique. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, j'ai perdu la foi telle qu'elle l'envisageait, quoi, dans le côté catholique ou en Dieu. Mais qu'en fait, ça a été complètement switché par la musique. C'est-à-dire que l'engagement émotionnel que j'avais enfant dans ce truc-là et a complètement été remplacé par la musique, quoi.
Une ferveur.
Ouais, exactement. Une et je fièvre. Me souviens, elle m'avait dit un truc trop beau d'ailleurs. Elle m'avait dit, je sais, j'étais vraiment petite et j'avais dit, mais Rosario, c'est quoi Dieu? Enfin, genre. Et elle avait un peu réfléchi. Elle m'avait dit, c'est l'amour. Et moi, je m'étais dit, mais putain, mais du coup, pourquoi les gens ils croient pas en Dieu? Enfin, c'est absurde. Tu vois, on sait tous que l'amour, ça existe. Et en fait, aujourd'hui, mon rapport à l'amour, c'est un rapport à la musique. Enfin, je pense qu'il y a rien qui me connecte autant à un espèce d'amour un peu fou, quoi, un peu absolu que la musique.
Il y a ce truc aussi de la langue que je trouve intriguant dans Mise à feu. Les deux enfants que tu mets en scène, un frère et sa sœur, ont leur propre langue, un langage des oiseaux qui ne peut pas être compris des autres, surtout pas des adultes. Mmh. Là, il y a cette nounou qui te transmet une langue que tu utilises encore aujourd'hui, qui est l'espagnol. Est-ce qu'il y avait ce sentiment en fait, d'être dans une espèce de bulle d'incompréhension dans ton enfance ou de pouvoir peu communiquer avec le reste du monde?
Ouais, je dirais que en fait j'avais une relation comme c'est aussi un peu dans le roman, mais j'avais une relation très forte avec mon frère qui a un an et demi de moins que moi et je pense que ouais on a eu une enfance qui était quand même assez violente et je pense qu'on s'est tous les deux complètement protégés gamin d'abord en inventant cette langue qui s'appelait la langue du monde quand on était petit et on avait vraiment inventé un vocabulaire, etc. Et on se parlait, c'était un peu notre langue de code, quoi. Et en fait, je pense que c'est ce que j'ai été chercher moi dans la musique et aussi dans l'écriture de la poésie, mais c'était un endroit de refuge, en fait. C'était un endroit où d'un coup, il n'y avait plus de conflit. C'est la musique, s'il y a bien une chose qui nous réunit et qui est vraiment un langage qui réunit, c'est la musique, quoi. Donc je pense que c'était il y avait cette idée de ouais de d'aller se protéger dans un langage qui nous trahirait pas, quoi.
Une bulle.
Ouais. Mais une bulle qui est en même temps nous connecte au réel de manière hyper forte, quoi, qui nous permet de vivre. Enfin, dans la musique, je pense que moi un des trucs qui m'a émue, mais c'était pas forcément conscient à l'époque, mais je pense que c'est un langage où il y avait pas de mensonge. C'était un langage qui réunissait et dans lequel on ne pouvait pas mentir. Et c'est un cadeau.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Est-ce que t'es née femme ou est-ce que tu l'es devenue?
Eh ben, je pense que je le suis devenue. En fait, je trouve que c'est une question qui est tellement complexe parce qu'on est, tellement construite. On apprend tellement ce que c'est que la féminité que je trouve que c'est très très difficile de démêler ce qui est du féminin en dehors de la féminité, quoi. Et que c'est marrant parce que par exemple, j'ai sorti Douce, du coup, qui est une des chansons de l'album et qui est sortie avant l'été. Et dans Douce, je parle de et puis je pense que c'est une chanson qui parlait de cette espèce d'injonction qu'on a à la douceur quand on est élevé en tant que femme. Et qui souvent est une injonction à en fait une fausse douceur qui n'est pas de la douceur, qui est une injonction à en fait à pas déborder, à pas déranger, à pas heurter, à arrondir les angles, à mettre de l'eau dans son vin. Enfin, une phrase que j'ai entendue 78 000 fois dans mon enfance et je pense qu'on est pas mal.
Calme-toi.
Mais du coup, je pense que c'était une manière de parce que je crois qu'il y a une immense puissance de la douceur et que moi cette chanson c'était une façon de me réconcilier en fait avec la douceur, c'était une façon de dire mais en fait pour pouvoir se l'approprier il faut accepter qu'elle puisse coexister avec la colère, il faut accepter qu'elle puisse coexister avec, avec d'autres émotions et qu'elle est d'autant plus forte et belle et puissante quand elle coexiste avec ces choses-là qui nous habitent. Et du coup, et par exemple, cette chanson, j'ai eu l'impression qu'elle parlait de... Elle parlait de comment on essaye de ne pas céder sur son désir. C'est-à-dire comment on essaye de suivre le fil rouge qui nous habite et de repousser un peu les murs du réel pour respirer un peu plus grand, quoi. Et que, en fait, le fait que j'ai été élevée comme femme dans cette société-là, ça me fait parler de certains sujets sûrement différemment, notamment sur cette injonction à la douceur, etc. Mais qu'au fond, ce qui m'intéresse, c'est quelque chose qui est propre aux humains, quoi, qui est comment on retrouve le fil de notre propre puissance, de notre propre liberté. Et ça ne devrait pas être une question qui devient féminine. C'est une question qui le devient, malheureusement, mais ça ne devrait pas être une question proprement féminine.
Mais cette chanson, moi, je sais que je la fredonne tout le temps. Elle est très ancrée en moi. Elle me parle beaucoup. Et voilà, et tu dis, si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur. Si tu savais la haine que je cache à l'intérieur, tu aurais peur. Et moi, ce qui me parle aussi, c'est ce « tu aurais peur ». C'est-à-dire qu'évidemment, en fait, à chaque fois qu'on laisse dépasser un tout petit peu de folie, un tout petit peu de rage, les gens autour ont très, très peur, quoi. Et d'ailleurs, récemment, dans une interview, j'ai entendu un homme te poser la question, mais enfin, Clara Isée, pourquoi tant de haine? Avec un air un peu amusé, genre oh, cette jolie jeune fille, comment elle peut employer les mots haine et colère dans une chanson, mon Dieu, elle est si mignonne. Et j'ai trouvé ça très symbolique, en fait, la façon dont lui-même avait l'air d'avoir peur de ta chanson. Je sais pas si t'as ressenti ça.
Non, mais complètement, je pense qu'il y a...
Elle est provocante quelque part, cette chanson, quand même.
Oui, bien sûr, c'est vrai. Mais...
T'es pas obligé de réagir. Hein.
Non, non,
mais
t'as complètement raison.
Mais tu vois, je trouve qu'elle raconte ouais, beaucoup, beaucoup ce que c'est. En fait, que cette dimension de contrôle et cette douceur qu'on nous a apprise, on nous l'apprend aussi parce que ça fait peur autres et surtout aux hommes. Quoi.
Complètement. Je pense que moi, c'était une façon de dire, c'est pour ça que je dis que c'est une chanson qui parle de comment on va vers sa propre subjectivité, vers sa propre liberté. Quoi. Mais que... En tout cas, là, je parle de moi, je ne peux pas en faire une vérité générale, mais j'ai l'impression que c'est impossible de le faire en fermant les yeux sur les choses plus violentes qui nous habitent et qu'on ne peut pas, dans la société dans laquelle on est, qui est une société qui est quand même, on le sait, quoi, violente, on est forcément habité par ces énergies-là. C'est impossible de ne pas l'être. Et du coup, je trouve ça... important de le dire, je trouve ça important de... Enfin, en tout cas, pour moi, dans mon chemin à moi, c'était important de le dire, c'était important d'arriver à le formuler, et c'était aussi important de dire que ça peut coexister avec de la douceur, que ça peut coexister avec... qu'on est complexe, et que c'est magnifique cette complexité, et qu'on est complexe comme humain, quoi. Enfin, qu'on soit une femme, un homme... finalement, ça ne change rien au fait qu'on est tous habités par ces émotions-là, quoi.
Ouais. C'est hyper important de le dire. Merci de l'avoir fait. tu étais une artiste, tu as fait de la musique, mais tu étais aussi une excellente élève, brillante. Tu as fait une hippocagne, tu as fait un master en philosophie à la Sorbonne. Ton sujet de thèse, c'était l'événement chez Alain Badiou. À l'époque, quand tu soutiens, c'était peut-être pas une thèse d'ailleurs, c'était un mémoire ouais. De master. Comment tu te projettes? Comment tu vois ta vie?
J'ai toujours voulu faire de la musique, donc ça a été un truc qui a vraiment jamais changé. J'ai toujours voulu chanter. Je pense que comme j'adorais la philo, je me suis dit tant que je peux continuer la philo.
C'était le hobby et la musique, c'était le point principal, c'est ça.
C'est un peu ça. C'est un peu ça, en fait. Je me suis dit, voilà, je kiffe trop ça, je trouve ça génial. La question de l'événement chez Badiou, en tout cas dans le versant autour de l'art, quoi, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Et je trouvais que de traverser cette question-là ou d'essayer de la traverser un peu, c'était aussi quelque chose qui me nourrissait, moi, dans mon chemin de compositrice, de chanteuse. Et donc, du coup, tant que j'ai pu suivre ce chemin-là d'un point de vue, en étant à la fac, etc., sans que ça vienne trop manger sur les heures de musique, je l'ai fait. Mais c'est jamais venu... la clarté sur le fait que si je pouvais, ma vie ce serait la musique. Ça a jamais changé, ça a toujours été là, quoi.
Mmh. Alors, il y a un sujet donc que je veux qu'on évoque rapidement en te ménageant le plus possible. Enfin, je vais chialer dans deux secondes, c'est moi qui vais chialer en fait. Je sais ce que c'est que de mettre des éléments très traumatiques dans une œuvre, dans un livre, dans une chanson, et d'après d'être tétanisée à l'idée de devoir en parler dans une émission de radio, sur un plateau de télé. T'as perdu ta maman, qui était une grande philosophe acclamée, Anne Dufour-Mantel. Je recommande vraiment à tout le monde de lire ses livres. Moi, mon préféré, c'est En cas d'amour. En 2017, elle est morte dans des circonstances en plus très dramatiques. Je laisse les gens se renseigner par eux-mêmes. Il y a énormément de choses qui sont aussi très forte et très troublante. C'est quelqu'un qui a écrit sur le risque, sur le sacrifice, sur la prophétie. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui font que sa mort a été très commentée et qu'on t'en parle énormément et que ça doit être extrêmement douloureux pour toi. Voilà, fin de la parenthèse. Néanmoins, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est suite à ce deuil, à cette grande douleur, que tu te mets à écrire des chansons, que tu sors, que tu changes aussi de nom. Que tu prends ton nom de scène, Clara Isée. J'ai l'impression aussi, d'après ce que j'ai entendu ou compris, que c'est là que tu trouves ta voix. Je trouve la façon dont tu positionnes en fait ta voix dans tes albums, ça devient vraiment toi. Et c'est troublant parce qu'on se dit, est-ce qu'il fallait un grand événement justement pour te mettre sur cette voie-là? Est-ce que ça t'a aidé en fait? Est-ce que ça a été l'espèce de déclencheur pour te trouver?
Je pense que non, et par ailleurs oui, enfin non, dans le sens où la musique, elle a vraiment été présente depuis le début de ma vie, et que j'aurais fait un album, enfin ma vie aurait de toute façon été une vie de musicienne, j'en suis persuadée.
Oui, tu nous l'as dit à l'instant, ouais. C'est aussi pour ça que je...
Exactement, et puis j'avais déjà composé des chansons, c'était déjà un processus dans lequel j'étais de manière hyper vitale, quoi. Et par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au moment de la mort de ma mère, j'ai eu besoin qu'un objet sorte, et sorte vite, parce que c'était ma façon d'arriver à survivre à cette épreuve-là, quoi. Et donc, du coup, je pense que ce qui est sûr, c'est que l'EP tel qu'il a existé, Le Monde s'est dédoublé, il n'aurait pas existé de cette manière-là si ça n'avait pas été suite à un deuil. Mais je pense qu'en même temps, aucun objet n'existe sans tout le reste de notre vie d'avant.
Évidemment, sur ton objet artistique.
Exactement. Mmh. Et voilà, après, ce qui est sûr, c'est que je pense que j'ai eu besoin de... Mais encore une fois, là, c'était la mort de ma mère, mais je pense que... Il y a quelque chose qui est récurrent dans mon parcours et dans mon travail, en tout cas jusqu'ici, qui est le fait de... Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui est brisé, quoi. Et je pense que c'est Anonox, l'album, il parle énormément de ça.
Ouais.
Et que c'est pas seulement le deuil de ma mère, c'est vraiment le deuil de ma mère est évidemment quelque chose qui m'a terrassée et qui a été hyper, hyper violent et difficile à transformer. Mais c'est pas... C'est pas le tout de la brisure, quoi. Et je dirais que de parler de ce qui... Surtout, notamment sur Océanonox, je pense que ce qui m'intéressait, en effet, c'était de parler de qu'est-ce qu'on fait avec ce qui est brisé et comment on transforme... c'est-à-dire, comment une fois que quelque chose a été brisé, comment on peut récupérer les débris, trouver d'autres choses et recomposer un univers avec. Et que, en fait, et comment on fait pour que cet univers-là, en fait, en travaillant à ce qu'il soit vraiment merveilleux et vraiment magnifique, comment on donne du sens à la brisure, quoi.
Mmh.
Et comment on donne du sens à ce qui n'en a pas. Et je pense que le deuil est une chose, mais ça peut être mille autres choses. Ça peut être, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être... Enfin, ça peut être mille choses, ça peut aussi être des grandes, grandes joies. Je pense que les grandes joies dans la vie, elles font rupture. Et parfois, elles sont presque aussi violentes que des grandes rames, en fait. Et je pense que ce qui m'intéressait, c'était cet endroit-là de rupture, c'est-à-dire quand on sait qu'il y a quelque chose de notre monde qui s'est effondré et qu'est-ce qu'on fait pour donner du sens à cet effondrement, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Et je pense que une des réponses que j'ai trouvées dans cet album, c'est que je me suis rendu compte que qu'on répare pas, qu'en fait on peut pas réparer, et qu'en fait par contre on peut transformer, on peut réinventer, et que en transformant, et ben on trouve, je pense, une puissance de vie qui est rare et qui peut être hyper forte. Mmh. Mais que ça en passe par le fait d'accepter que les choses brisées, elles sont brisées et qu'elles se répareront pas.
J'aime beaucoup cette image. Enfin, je me dis en fait qu'au fond, tu t'étais tellement programmée à créer que finalement, t'as ramassé les brisures qui avaient à tes pieds à ce moment-là. Ça aurait pu être une autre brisure. Mais je pense que c'est aussi... si cet album, il rencontre, si les gens se liquéfient en écoutant Le Monde s'est dédoublé, c'est que t'as aussi ramassé quelque chose qui était tellement puissant et tellement... c'est l'authenticité, en fait, du vécu qui fait la qualité de l'art et la communion ritualisante que tu décrivais au début, presque religieuse, qui peut exister autour de la musique.
Enfin, en tout cas, moi, je crois que ce qui est intéressant quand on part d'expériences intimes, c'est pour ça que la mort de ma mère, elle est évidemment complètement très importante dans ma vie et donc dans mon parcours en tant que musicienne. Mais je pense qu'on écrit depuis l'intime parce que quelque part, on n'a que ça. Mais que ce qui est intéressant, c'est quand ça dépasse l'intime, sinon ça n'a aucun intérêt. Ouais. Et que je pense que en fait, par exemple, dans Le Monde s'est dédoublé, ce dont parle de cette chanson, c'est des moments de sidération et de qu'est-ce qu'on fait quand on perd prise avec le réel et comment on raccroche les wagons, comment on réapprivoise le réel. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui... Le fait est que moi, je l'ai écrit à partir d'une expérience de deuil, mais en fait, ça ne concerne pas du tout le deuil. Ça concerne les puissances vitales qui sont à l'intérieur de nous. Et je pense que c'est peut-être pour ça que cette chanson, elle touche. Parce que sinon, on n'en aurait rien à foutre. Enfin...
Toute personne ayant vécu un traumatisme, et Dieu sait si on est nombreuses et nombreux, comprend cette chanson, évidemment. Mais voilà, je fais juste une parenthèse sur Lettre à M. Je ne sais pas si elle est adressée à ta maman ou pas, mais en tout cas, toute personne qui a perdu un proche ne peut pas écouter cette chanson sans avoir la chiale en 2 secondes. C'est une petite ritournelle pudique au piano qui est vraiment sublime. Et voilà, merci de l'avoir écrite. Je suis hyper émue, dis donc. Justement, tu parles de réparation et moi j'ai toujours eu l'impression que l'écriture en particulier, je trouve que justement il y a une... Enfin, je suis ravie de t'avoir face à moi avec ce discours extrêmement, plein de ferveur pour la musique, alors que tu as aussi écrit un roman. Et je voudrais revenir à ce geste d'écriture que je trouve peut-être un peu plus secret, un peu plus intime. Un peu plus solitaire aussi peut-être, et qui pour moi a vraiment une puissance réparatrice. Mmh. Et dans Mise à feu, tu parles beaucoup d'enfance, on en a parlé tout à l'heure, tu parles beaucoup aussi d'un personnage qui pourrait être ton frère, d'ailleurs je crois que le livre lui est dédié. Est-ce que l'écriture de ce texte a réparé des blessures qui étaient peut-être encore antérieures?
C'est dingue. Mais en fait, ce que je trouve beau dans l'écriture, c'est que... Mais comme dans la musique, c'est que souvent, on me demande, par exemple, est-ce que finalement, la musique... Enfin, sur les quelques interviews que j'ai pu avoir, on me parle souvent du rapport entre la musique et la réparation. Et en fait, et pour moi, l'écriture, c'est pareil. C'est qu'elle n'a pas vocation à réparer, l'écriture, je crois. Enfin, en tout cas, dans ce que je ressens. Mais par contre, elle répare. Et elle répare hallucinamment. Mais c'est peut-être parce que, justement, c'est pas sa vocation première qu'elle répare autant. C'est que j'ai l'impression que en fait, déjà d'un point de vue intime, je pense que les premiers romans, comme là, c'était le cas de Mise à feu, mais très souvent, il y a quelque chose où quand même si c'est pas autobiographique d'un point de vue vraiment littéral, il y a énormément de soi. On met beaucoup, beaucoup de soi dans un premier roman. Et je crois que ça, c'est assez universel. Et que du coup, il y a dans l'écriture un mouvement qui est celui de redevenir acteur de choses qui ont pu être des choses qui nous ont blessés parce que justement on était à un endroit de passivité. Et que là, en l'occurrence, Mise à feu, ça parle beaucoup d'enfance. Et je pense que dans l'enfance, il y a des choses qui sont vécues, qui sont parfois très douloureuses et qui restent très douloureuses parce qu'on est dans un... parce qu'on est dans une position d'enfant et donc que du coup, en tant que position d'enfant, très souvent, on reçoit les choses et on a peu la main, on a peu une main active sur ce qui se passe autour de nous. Et je pense que dans l'écriture, il y a ce pouvoir quand même assez magnifique qui est le fait d'écrire une histoire, de dire « je » en étant fidèle, je pense, à un personnage qu'on invente ou qu'on... En fait, à un moment donné, le personnage prend son envol, sa dynamique à lui, son ou sa trajectoire qui fait qu'on est obligé de suivre ce personnage et que, en fait, finalement, ce personnage-là, parfois, vient réparer des choses de soi, même si ce n'est pas le but premier de l'écriture, quoi.
Il te prend par la main et il t'emmène en fait à un endroit que tu n'avais pas forcément prévu d'aller, ouais. d'aller explorer, quoi.
Complètement.
Ouais, complètement. Je pense aussi dans l'écriture, il y a le fait de figer la pensée. J'ai l'impression aussi que le simple geste, nos pensées nous traversent. Enfin, c'était l'obsession de Virginia Woolf et je suis obsédée par Virginia Woolf. Mais voilà, le simple fait d'avoir des pensées qui nous traversent en permanence et d'essayer de les agripper et de les mettre quelque part où elles restent, c'est tellement apaisant en fait comme geste. Et j'ai l'impression que c'est aussi très thérapeutique en fait pour soigner des traumas, des choses anciennes. Bon, on les met là, on ferme la couverture du carnet et c'est là, ça bouge plus quoi.
Complètement à fond. Et puis je pense que l'écriture, elle. Mais par contre, je dirais qu'il y a quand même une vraie différence dans l'écriture pour soi.
Ouais.
L'écriture de carnet, quoi, qui est en effet une façon de... Enfin, il y a quelque chose de rassurant et de réparateur, pour le coup, peut-être de vraiment... qui se veut vraiment d'abord réparation.
Et je dirais... pratique, cette écriture-là.
Ouais, carrément, à fond. Et je trouve que, par contre, quand il y a une écriture qui se veut publication, il y a un rapport qui est très différent. Et c'est pour ça que je dirais que c'est pas... La littérature ne... Je dirais presque qu'elle ne doit pas avoir pour vocation de réparer, dans le sens où elle doit être libre. Je crois qu'elle doit avoir cette liberté-là de pouvoir, si elle veut, ne pas réparer. Mais que très souvent, elle répare, que c'est une conséquence, quoi.
Pardon pour le bruitage, oreille d'origine, qui s'est beaucoup à nos pieds. J'avais une demande très audacieuse. Je ne sais pas si je la formule ou pas, Clara. Franchement, tu m'envoies bouler. Mais moi, il y en a une. En fait, je ne m'attendais pas à ce que ce soit ma préférée. Je me rends compte que c'est celle que je remets tout le temps. C'est Souveraine.
Ouais.
Est-ce que tu serais d'accord pour chanter allez, deux lignes
ah, c'est
comme
trop
ça,
mignon.
Au débeauté
Depuis le début ou sur le refrain?
Le refrain, peut-être, okay. Si tu veux.
Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine.
Oh, je suis trop contente, merci pour ce petit cadeau. Il y a dans cet album au moins deux chansons d'amour adressées à des femmes.
Ouais.
Ah, j'en ai entendu deux, moi.
Ah, c'est vrai.
Il y en a une que j'entends un peu genrée au féminin, même si c'est pas... En tout cas, il y en a une, c'est sûr.
Ouais.
Et c'est rare, ce genre de titre. Ouais. Il y en a peu dans le catalogue de la pop musique francophone. C'est des titres, en plus, qui sont explicites, qui sont sexuels, qui sont torrides. Et franchement, ça fait tellement du bien que ça existe, parce qu'il y a tellement de chansons de cul hétérosexuelles que why not. Est-ce que c'était important pour toi qu'elle soit écrite, cette chanson?
Ouais, alors pareil, c'est... Vraiment, ces chansons, elles ont été tellement écrites depuis un endroit intime, fragile aussi, que j'ai pas eu... Enfin, cette chanson, c'était pas une idée préconçue, quoi. Je l'ai écrite parce que j'ai vécu ma première histoire d'amour, je l'ai vécue avec une fille qui s'appelait Adèle, qui a été mon premier amour, et que un an après notre rupture, j'ai eu besoin d'écrire cette chanson. C'est une des premières chansons qui a été écrite de l'album, et j'ai eu besoin de l'écrire, j'étais dans un endroit que j'adorais, le dernier jour sur un piano, et j'ai composé cette chanson. Et elle était importante pour moi, parce que c'était... Pour moi, c'est une des plus jolies chansons de rupture de l'album. En même temps, c'est une des plus jolies chansons d'amour de l'album. Et voilà, pour moi, comment dire... c'était d'abord une chanson d'amour qu'il fallait que j'écrive parce que j'avais besoin de l'écrire pour rendre hommage à cet amour-là que j'avais vécu. Et il se trouve que c'était avec une femme et que du coup, c'est une chanson qui lui est dédiée. Mais c'était... en fait, ce serait trop beau que ce soit pas une question. Enfin, que ce soit...
évidemment.
Tu vois.
Mais en même temps, ça l'est. Et c'est,
mais oui,
et
à
je
fond.
Trouve que c'est super chouette.
Ah,
fait.
Bien sûr, bien sûr.
Enfin, pour avoir aussi. Enfin, voilà, parfois, on se croise dans des soirées organisées par Mélissa Fulpin, qui est une personne qui t'accompagne sur tes albums, qui est très engagée sur les questions féministes, où on croise voilà, pas mal de femmes de la scène queer.
Ouais,
et
bien
en fait,
sûr.
Je trouve ça aussi super. Évidemment qu'il faudrait que ce soit pas...
Non, ouais, c'était pas du tout contraire.
Mais...
Je trouve ça génial que tu me la poses la question.
Totalement raison.
Et c'était juste en soi, c'est vrai que je me dis c'est drôle parce qu'elle a vraiment été écrite comme une chanson d'amour pour quelqu'un que j'ai adoré.
Et c'est pour ça qu'elle est sublime et qu'elle s'écoute, voilà. Mais voilà, je me dis, bon, c'est bien. Ça va faire aussi, je pense, du bien à énormément de femmes d'avoir... pouvoir écouter une chanson en n'ayant pas besoin de féminiser dans sa tête.
Ouais, c'est clair.
Les adjectifs.
Et j'ai eu des super jolis retours sur cette chanson.
Ça m'étonne
c'est
pas.
C'est vrai que ça m'a vachement émue.
Ça m'étonne pas. Clara Isé, est-ce que tu as accès à ta chambre à toi ?
À ma chambre à moi ? Oui, mais alors elle est tout sauf dans ma vraie chambre.
Ah, intéressant. Elle est où ?
Eh bien, je crois que je la construis un peu partout dès que je peux. Je pense que j'ai du mal avec... J'ai toujours été incapable, par exemple, de mettre un bureau, d'écrire un bureau, de considérer ma chambre comme un endroit rassurant, par exemple. Je sais que... une chambre à soi dans l'idée de Wolf et dans l'idée d'avoir un espace à soi protégé dans lequel on puisse créer, dans lequel on puisse être libéré des injonctions aussi autres. C'est quelque chose dont je rêve, mais je pense que je ne suis pas encore du tout en paix avec ça. Je pense d'abord, j'ai beau appeler mon album Océanonox, c'est peut-être sûrement pour ça, mais j'ai assez peur de la nuit.
Ah.
Ouais. Ce qui fait que, évidemment, je suis très noctambule parce que je repousse toujours le moment d'aller dormir. J'en fais moins maintenant, mais pendant longtemps, je faisais des terreurs nocturnes beaucoup. Donc j'ai une relation au sommeil qui est une relation d'amour-haine. Où à la fois, je sais que la puissance des rêves, le lien au rêve et tout, c'est quelque chose qui est très important pour moi, qui m'inspire à plein d'endroits et tout. Et en même temps, vraiment, la nuit, j'ai une relation un peu complexe. Et donc, du coup, la chambre, c'est aussi un espace que j'essaye d'apprivoiser doucement, mais qui n'est pas un espace évident pour moi.
J'adore la philosophe qui entend littéralement le mot chambre. En
ah
fait,
oui
c'est marrant. Non, mais c'est fou parce que quand je pose cette question, tout le monde parle de la pièce à soi.
Oui,
d'ailleurs,
oui.
Chambre à soi, c'est une traduction qui est complètement
fausse. Oui, je sais qu'il est complètement fausse.
Parce qu'en anglais, c'est room. Mm. Donc, et je trouve ça super qu'on parle de sommeil et de lit dans le cadre
de
cette
question. Oui, parce qu'il y a ce truc du rapport au lieu intime, quoi, qui t'est intime.
Complètement.
Et je sais que moi-même, tu vois, j'ai, quand j'ai écrit mon roman, par exemple, je suis incapable d'écrire dans une pièce qui soit une pièce, par exemple, à moi, où je ferme la porte et où j'écris, tu vois. Donc j'ai soit besoin...
Du coup, tu l'as écrit où ? Dans des cafés ?
J'écris soit chez des amis,
ah ouais.
C'est-à-dire des amis qui... Tu vois, qui me disent qu'ils sont pas là pendant une semaine chez eux, et donc du coup, je suis chez eux. C'est marrant, hein, c'est un truc de... Soit j'écris aussi beaucoup dans des cafés, dans des gares, dans des endroits en fait où il y a la vie autour, quoi. Comme si c'était un truc qui me rassure en fait. C'est comme si du coup j'avais l'autorisation de plonger parce que potentiellement les gens autour vont me rattraper si je plonge trop. Ce qui est une peur enfantine absurde, mais qui est une peur bien bien chevillée. Et par exemple le roman, c'est un des plus beaux moments de ma vie, je pense. C'est à la fin de l'écriture du roman. Je devais aller finir une semaine. Je devais travailler sur les corrections, qui, moi, personnellement, c'est l'étape que je préfère dans l'écriture. Où je sais que le fait d'écrire et de plonger, c'est nécessaire, mais c'est douloureux pour moi, cette période-là. Alors qu'une fois que le premier jet est sorti et qu'il y a un travail de réécriture, c'est le soulagement, quoi. C'est le moment que j'adore. Et en l'occurrence, du coup, j'étais partie en Italie chez une amie qui a une maison sur une île en Italie. Et du coup, j'étais censée y aller 3-4 jours. Et en fait, il y a eu l'annonce du deuxième confinement.
Oh, wow.
Et du coup, j'ai été confinée sans le prévoir pendant un mois sur cette île où du coup, j'ai fini mon roman là-bas. Et je pense que c'est la première fois que j'ai fait cette expérience, justement, peut-être de chambre à soi, dans le sens où... Mais qui devait en passer par le fait d'être chez quelqu'un d'autre.
Et que ce soit accidentel aussi.
Exactement, que ce soit accidentel. Et que aussi, c'était incroyable parce que c'était sur une île. Donc, j'écrivais toute la journée. Puis après, j'allais dans une crique et j'allais me baigner. Et c'était un truc de fou, quoi.
Ça a l'air bien.
C'était magique.
C'est vraiment parfait, je prends. Clara Isée, ça évoque quoi pour toi, La Poudre?
Eh ben, ça évoque beaucoup de nuits à écouter tes podcasts et à écouter des femmes très puissantes et intéressantes parler de leur parcours. Moi, ça m'évoque ça.
Bah, merci de t'être ajoutée à la liste. Merci infiniment, Clara.
Merci.
Merci à Clara Isée d'être venue faire parler La Poudre avec moi. La Poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée de Josia Rabaronne. À la prise de son, au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une création de Marion Emery et Lorraine Bastide sur une idée originale d'Aurore Mailleux et une musique de Bonnie Banane. Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La Poudre Lit. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et surtout, surtout, continuez de faire parler La Poudre.